Liban, anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Hassan Salamé.
Épisode 2, 1943, l'indépendance d'un pays entre Occident et monde arabe.
Le pacte n'est autre chose qu'une entente entre les deux éléments dont se compose la population de la patrie libanaise, indépendance complète et achevée du Liban, sans recourir à la protection de l'Occident, ni à l'union ou à la fédération avec les pays d'Orient. Béchara El Khoury, 1943. On prolonge notre conversation, notre dialogue avec Hassan Salamé sur l'histoire de ce pays déchiré, le Liban. Dans ce qu'on vient d'entendre là, il y a un mot fondamental, c'est le pacte. Le pacte. C'est quoi ce pacte national qui est indissociable de l'histoire du Liban contemporain ?
Il faut savoir que la France libre n'a pas été très, très encourageante à cette époque-là. Elle ne voulait pas lâcher le Liban. Mais le Liban, les Libanais eux-mêmes, ainsi d'ailleurs que les pays voisins, voulait que le Liban recouvre son indépendance. Et pour recouvrir son indépendance, il a découvert que le dernier recensement en 1932 faisait une espèce d'égalité numérique entre chrétiens et musulmans. Donc il fallait que les chrétiens et les musulmans arrivent non seulement à coexister, mais à co-gouverner le pays ensemble.
Ça, c'est très important. Hein. Le recensement de 1932, il est capital parce que...
C'est le dernier.
Voilà.
Il n'y en a pas eu depuis.
Voilà, c'est ça qui est important.
Parce qu'après, on a décidé que les nombres ne comptaient pas.
Oui.
Et que ce sont les communautés. Un peu comme les États américains, qui ont deux sénateurs au Sénat, que ce soit la Californie...
Ou le Wyoming.
Le Wyoming.
Ouais.
Eh bien, c'est à peu près la même chose avec les communautés libanaises. Mais il fallait formaliser cela. Et c'est un accord entre deux hommes, en réalité. Béchara El Khoury, président de la République de l'époque, et Riyad Salah, qui est un notable sunnite venu du sud du Liban et installé à Beyrouth et qui avait des antécédents de nationalistes arabes, alors que Béchara El Khoury est un avocat en vue de la ville de Beyrouth.
Qui a été formé, je crois, en France ?
Oui, il a fait des études de droit en France.
Pardon, je vous coupe, mais d'où ce qu'on vient d'entendre, sans recourir à la protection de l'Occident, ça c'est pour faire plaisir aux Arabes, pas d'union avec les fédérations.
Ils se sont entendus à ce que le Liban n'appartienne pas, culturellement, à aucun des deux blocs. Cela dit, le français a disparu comme langue officielle quelques années plus tard de la Constitution, et surtout... je crois que l'influence anglaise est devenue très compétitive avec l'influence française à Beyrouth au lendemain de l'indépendance.
Je reviens sur ce pacte national parce que il y a ces mots que vous connaissez bien du journaliste Georges Nakache en 1949 qui évoque une forme de nini, la double négation. Il dit la double négation, donc le non à l'Occident et le non à l'arabisation, il dit ça ne fait pas une nation. Parce qu'on sait ce que l'autre moitié ne veut pas. Mais qu'est-ce que veulent les deux moitiés ensemble ? Et ça, c'est fondamental pour comprendre le Liban.
La phrase de Nakache est encore plus belle. Les deux négations ne font pas une nation.
Voilà.
Et je pense qu'il n'avait pas tort, en ce sens qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Les Libanais savent ce qu'ils ne veulent pas être, mais ne savent pas très bien ce qu'ils veulent devenir. Et je ne dis pas que ça a changé depuis. Je crois qu'aujourd'hui, les Libanais n'ont aucune envie d'être dominés par l'Iran et encore moins d'être influencés ou dominés par les Israéliens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent est une autre, toute autre question. Et je crois que Nakache avait mis le doigt sur cette facilité des Libanais à savoir ce qu'ils ne veulent pas et à ne pas exprimer ce qu'ils veulent, qui est une espèce de tare nationale dont le Liban continue de souffrir.
Pour autant, ces années-là sont des années d'âge d'or. Une forme d'âge d'or pour la nation, si elle existe, la nation, en tout cas le pays, le Liban, notamment dans les années de présidence de Camille Chamoun, entre 52 et 58. Racontez-moi cette période où on évoque un dialogue fertile entre les confessions et aussi un âge d'or économique, quand même, ne l'oublions pas. Le surnom du Liban à l'époque, c'est la Suisse de l'Orient.
Écoutez, c'est une période très intéressante. qui commence avec l'indépendance en 1943 et qui se termine avec le début de la guerre civile en 1975. C'est une période riche à tous les points de vue. D'abord, au point de vue économique. Mmh. Le pays a un taux de croissance annuel de 7 à 8%. Il est arrivé des années où il était dans les trois pays avec le plus haut taux de croissance au monde, au début des années 60. Deuxièmement, c'est un...
Pourquoi ?
Parce que c'est un pays qui a pu bénéficier, entre autres, d'une urbanisation contrôlée, mais surtout, qui a gardé un système d'économie libre à un moment où les pays de la région commençaient de plus en plus à adopter une économie dirigiste. Donc vous avez l'élite économique et industrielle de Syrie, d'Irak, d'Égypte, qui se sont installés au Liban et qui ont créé le système bancaire libanais moderne, qui ont établi des industries que le Liban n'avait pas auparavant. Mais il y a eu aussi autre chose.
Et je précise aussi le secret bancaire. Si on parle de Suisse, de l'Orient...
Et le secret bancaire. Ouais. Mais il y a eu aussi autre chose. En 1948, il y a la première guerre israélo-arabe et une grande partie des Palestiniens s'installent au Liban. Dans ces Palestiniens, il y a des urbains qui participent au développement du Liban et il y a des réfugiés qui restent jusqu'à aujourd'hui
Sur lesquels on reviendra bien sûr.
Internés dans les camps palestiniens. Et c'est une période aussi où, au niveau de l'éducation, on assiste à une espèce de développement massif de l'enseignement privé autant que de l'enseignement public et de la création, non pas seulement d'universités américaines et françaises qui existent depuis le 19e siècle. On fête cette année 2024 les 150 ans de l'Université Saint-Joseph, qui est la grande université.
C'était la vôtre ?
Qui a été la mienne, comme étudiant et comme professeur, oui, d'ailleurs. Mais aussi d'une université libanaise, qui est une université où on ne paye pas et qui va pouvoir véritablement s'occuper des classes moyennes et éduquer. Mais c'est aussi une période où politiquement, le Liban arrive à rester distant des conflits de la région. Il est distant de la guerre de 1948 à laquelle il participe à peine.
Oui, à peine, quelques hommes.
Et il est entièrement distant de la crise de Suez, qui voit un reflux massif de l'influence européenne au profit de l'influence américaine et soviétique au Moyen-Orient. Il ne participe pas à la guerre de 1967, contrairement à ses voisins jordaniens et syriens. Il n'est pas présent dans la guerre de 1973. Et donc, il vit ce conflit israélo-palestinien dans un mode second, en essayant de ne pas permettre à ce que le pays soit pris en main par l'OLP quand elle naîtra en 1965, et surtout à essayer de maintenir ce pacte national dont vous parliez tout à l'heure, notamment en 1958, où une bonne partie de la population musulmane est attirée par les sirènes du Caire et par la personnalité exceptionnelle de Nasser, qui est alors le président de l'Égypte.
Et qui est à l'origine de tensions majeures, pour le coup, tout de même dans cette période d'âge d'or.
Voilà.
Au Liban, on est en 1958, il y a un projet d'unification du monde arabe et ça va entraîner la première guerre civile au Liban, malgré les années Chamoun, malgré Fayrouz, qui est la grande star libanaise de l'époque, malgré l'argent qui coule à flot, il y a quand même ces tensions.
Chamoun n'est pas innocent dans cette guerre de 1958.
Racontez-nous cette guerre, qu'est-ce qui se passe ?
Chamoun, à l'époque, est un président populaire en milieu chrétien, mais qui voulait... Contrairement à ce que la Constitution, ça c'est un vieil tare libanaise aussi, contrairement à ce que la Constitution dit, voulait un deuxième mandat de 6 ans. Donc, contraire à la Constitution de 1926. Et pour cela, il a laissé faire, il a d'abord traficoté les élections législatives de 1957 pour avoir une majorité au Parlement, enfin, aller jusqu'à faire chuter des gens comme Kamal Jumblat à l'époque ou d'autres aux élections législatives en trafiquant les élections. Mmh. C'était très, très aventurier de la part de M. Chamoun. Donc M. Chamoun n'est pas innocent dans l'explosion de violence que le Liban va connaître en 1958, qui va durer quelques mois, 3 à 4 mois, et qui va se terminer par un accord entre l'Égypte de Nasser et les États-Unis d'Eisenhower sur la personne du prochain président, M. Fouad Chehab, qui était commandant en chef de l'armée. Et c'est le chehabisme qui va un peu sauver le Liban, parce que le chehabisme va établir une meilleure ou une plus juste ou une moins injuste distribution des postes entre chrétiens et musulmans, et surtout va commencer à établir des institutions dont n'importe quel État moderne est doté et que le Liban n'avait pas, un conseil d'État, une cour des comptes, un système de sécurité sociale. Tout cela, nous le devons dans une grande mesure à Fouad Chehab, qui a été président du Liban entre 58 et 64.
Il faut quand même une note de bas de page sur cette guerre civile de 1958. Guerre civile, je ne sais même pas si le terme est adapté. Tension, en tout cas, très puissante dans le pays. Rappelons quand même que Nasser voulait, à l'époque, unifié dans une espèce de République arabe unie, c'est le terme de l'époque. Il y avait, je crois, le Yémen et la Syrie.
Non. Nasser était un homme rationnel. Et il savait que le Liban avait un statut particulier pour les Occidentaux et n'a pas essayé. Ce qu'il a essayé de faire, c'est d'avoir de l'influence pour imposer la personnalité du prochain président. Mais je ne crois pas que Nasser a cherché à intégrer le Liban dans la République arabe unie.
On avance un peu. Vous avez dit que cette période, elle s'arrête en 1975. Mais à partir de 1967-68, il y a une nouvelle donne dans le sud du Liban. Et j'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est ça aussi qui va faire basculer le Liban dans autre chose. L'épisode prochain sera consacré à la guerre civile libanaise, ces 15 ans terribles entre 1975 et 1990. Mais cette guerre civile, elle est préparée finalement par ce qui se passe. Vous avez commencé à évoquer les réfugiés palestiniens à partir de 1948, mais quelque chose change à la fin des années 60. Qu'est-ce qui se passe dans le sud du Liban à ce moment-là ?
Ce qui se passe avant cela, en 1959, c'est que plusieurs personnes qui travaillent à Koweït, d'origine palestinienne, des gens comme Yasser Arafat, des gens comme Salah Khalaf, Abu Iyad, ou Khalil El-Wazir, Abu Jihad, etc., se retrouvent à Koweït et en 1959, secrètement, décident de créer le premier mouvement militaire secret palestinien qui s'appelle Fatah.
Le Fatah.
Ça arrive en 1959. De tous les pays de la région, ils décident que le pays où ils vont sortir leur premier communiqué 6 ans plus tard est Beyrouth.
Pourquoi ?
Bien parce que le Liban est un pays où ils savent que la presse est libre. Il n'y a pas un censeur qui va venir avec ses ciseaux couper le communiqué qu'ils vont sortir. Et effectivement, c'est ce qui arrive le 1er janvier 1965. La presse libanaise sort le jour de l'an avec un communiqué d'un groupe dont on entendait parler pour la première fois, qui s'appelle le Fatah, avec un communiqué de M. Yasser Arafat. Sauf que l'essentiel des troupes palestiniennes du Fatah et bientôt d'autres organisations plus petites sont basées en Jordanie,
oui,
où la population est aux 2/3 au moins palestinienne. Mm-hmm. Sauf qu'en 1970, le roi Hussein, à travers ce qu'on appelle Septembre Noir, met fin à cette domination palestinienne d'une manière brutale, il liquide pratiquement toute l'infrastructure de l'OLP et il domine les camps et il les poursuit dans les montagnes du nord de la Jordanie. Et c'est alors que les Palestiniens qui avaient le haut du pavé en Jordanie jusqu'en 70 déplacent leur état-major à Beyrouth. Et à Beyrouth, en 1969, il y a une campagne présidentielle énorme. Et dans cette campagne présidentielle, il y a le commandant en chef de l'armée, déjà, qui pense devenir président de la République et qui prend celui d'aller signer au Caire en 1969 ce qu'on appelle l'accord du Caire. Et cet accord du Caire est plus que problématique, puisque dans cet accord du Caire, le commandant en chef de l'armée, avec la complicité d'une partie de la classe politique, accepte que les Palestiniens aient une présence quasiment légitime à l'intérieur de... C'est la naissance du Fatahland. C'est la naissance de la zone dominée par les guerrieros palestiniens au Liban sud.
Vous avez dit Fatahland. On dit beaucoup Hezbollahland aujourd'hui.
Oui.
Il y a un prédécesseur, le Fatahland.
Le Fatahland, qui n'est pas exactement le Hezbollah, qui est beaucoup plus petit que le Hezbollahland, oui, mais qui était la première concession du Liban à sa souveraineté. Et c'est pourquoi le Parlement libanais, plusieurs décennies plus tard, va se dépêcher d'annuler cet accord du Caire, même s'il n'était plus très efficace, parce que c'était quelque chose, pour beaucoup de Libanais, qui était une violation nette de la souveraineté libanaise, qui a été faite dans un moment de faiblesse du Liban, puisqu'au Liban, le Premier ministre de l'époque, Rachid Karami et le président Charles Helou ne s'entendaient pas du tout, ce qui a permis à Nasser d'imposer cet accord du Caire de 1969 pour lequel le Liban a payé très chèrement.
Je crois que vous n'êtes pas absolument absent de la remise en cause de cet accord du Caire.
Mais je ne suis pas.
Voilà, quelques années plus tard. En tout cas, on sent et on prépare les esprits déjà à cette déflagration de 1975 et le Liban, ce petit pays, objet de convoitise, objet de tensions internes aussi, va plonger dans la guerre civile. Ça sera l'objet du prochain épisode. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.